It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Salut, c'est Thomas Rosé. Dans notre dernier épisode en date, nous nous sommes intéressés à la question du climat vu depuis notre porte d'entrée, ou presque, en tout cas aux conséquences palpables, concrètes, visibles, des dérèglements en cours sur nos vies et celles de nos concitoyens. Aujourd'hui, on avait envie de retourner la focale et nous intéresser à un aspect presque invisible du réchauffement, méconnu en tout cas, oublié même parfois, son impact sur les sols gelés, profondément enfouis dans plusieurs zones de la planète. Des sols qui nécessairement, eux aussi, voient leur température augmenter, avec, selon les chercheurs qui les surveillent de près, de possibles conséquences très lourdes pour l'humanité. On parle même de boîte de Pandore. Mais qu'est-ce qui se cache sous la glace qui fond ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
En 1979, le volcanologue Haroun Taziev annonce déjà le réchauffement climatique.
Est-ce que l'activité de ces volcans ne peut pas devenir un jour telle qu'il fasse fondre la glace autour? Vous voyez les conséquences auxquelles pensent des tas de gens. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un a calculé...
Le niveau de la mer va monter.
Oui, si jamais la grande banquise fond, le niveau des mers va monter de 100 mètres.
Exact. C'est une catastrophe horrible. Mais ce ne sont pas les volcans qui le feront. Ce qui peut le faire, c'est la pollution industrielle.
Oui. Et cette quantité de carbonique se propage dans l'atmosphère.
Dans l'atmosphère et risque de faire de l'atmosphère une espèce de serre.
C'est un baratin, ça.
L'étude du pergélisol a été récemment, il y a moins d'un an, désignée comme une des cibles prioritaires dans les études environnementales à mener par les Nations Unies et notamment par le programme des Nations Unies pour l'environnement.
Ce sol glacé très spécifique, on l'appelle le pergélisol. On l'appelle aussi parfois le permafrost, c'est son nom anglais. Parmi les scientifiques qui scrutent ces évolutions, il y a Florent Dominé. Il est directeur de recherche au CNRS. Il travaille essentiellement au Canada, à l'unité mixte internationale TACUVIC. Il est spécialiste des problématiques climatiques et notamment des conséquences du dégel du pergélisol. J'ai commencé par lui demander de m'expliquer, à moi qui suis une vraie bille en science, quelles étaient les caractéristiques de ce sol gelé.
Le pergélisol, c'est le sol qui est gelé en permanence. Alors là, la définition officielle, c'est le sol qui est gelé au moins 2 années consécutives. Mais moi, je n'aime pas cette définition officielle. Je préfère dire le sol qui est gelé en permanence. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en été, ce sol gelé en permanence dégèle superficiellement. Okay, c'est ce qu'on appelle la couche active ou le mollisol. Donc, cette couche active qui, en été, va dégeler, ça fait entre 20 cm et 2 mètres de profondeur selon les régions. Mais en dessous de ça, ça va rester gelé en permanence, quoi. Donc, voilà, c'est ça qu'on appelle pergélisol. Et le mot anglais, c'est permafrost, ce que des journalistes mal informés et peu soucieux du respect de la langue française utilisent. Donc, voilà, moi, j'utilise le terme pergélisol, ce qui est le terme correct en français.
Quelle surface de la planète il représente? Où est-ce qu'on le trouve déjà et quelle ampleur il a sur la Terre?
Donc le pergélisol, ben, on le trouve évidemment dans les zones froides et essentiellement dans l'Arctique. Donc en gros, il y a par exemple au Canada, le Canada c'est un pays qui fait 10 millions de kilomètres carrés, il y a 5 millions de kilomètres carrés qui sont pergélisolés. En Russie, la Russie, ça fait 14 millions de kilomètres carrés, environ 8 à 9 millions de kilomètres carrés qui sont pergélisolés. Donc en gros, il y a une quinzaine, 15 à 18 millions de kilomètres carrés de pergélisol sur Terre. Il y en a un petit peu en Antarctique, dans les zones déglacées. Il y en a un petit peu, il y a un peu de pergélisol alpin, là, il y en a au Tibet et tout ça. Alors, un peu dans les Alpes aussi, du pergélisol alpin, mais bon, dans les Alpes, c'est vraiment anecdotique. Voilà, quoi. Donc en gros, quand même, 18 millions de kilomètres carrés. Comparé à 550 000 km² pour la France, ça fait quand même pas mal, quoi. C'est quand même 30 fois la France. Presque.
Puisqu'on en arrive au cœur de ce qui nous intéresse, nous, dans ce sujet, comment est-ce qu'il subit concrètement, ce pergélisol, le dérèglement climatique?
Bon, le dérèglement climatique, c'est-à-dire le réchauffement, quand il y a quelque chose de gelé qu'on réchauffe, il dégèle. C'est pas compliqué. Donc en fait, le pergélisol disparaît. Dans la zone marginale du pergélisol, c'est-à-dire, en fait, le pergélisol, il ne faut pas croire que là, il y a du pergélisol, et puis subitement, le pergélisol disparaît. En fait, ce qui va se passer, typiquement, c'est qu'il y a une zone avec le pergélisol continu, où ça va être pergélisolé partout. Et puis, quand on descend vers le sud, il va y avoir des zones, par exemple, les faces sud des collines qui vont être dégelées, les faces nord des collines et les fonds de vallée qui vont encore être gelées, etc. Donc, on passe d'une zone à pergélisol continu à une zone à pergélisol discontinu, après à pergélisol sporadique et du pergélisol, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pergélisol. Donc, en fait, on voit d'année en année la zone couverte par le pergélisol qui régresse. Je vais vous donner un exemple. À proximité de Québec, il y a une montagne, enfin, les Alpins appelleront ça une colline. Au Québec, ils appellent ça une montagne, qui s'appelle le Mont du Lac des Cygnes, où il y a une quinzaine d'années, il y avait du pergélisol. Le sommet était pergélisolé. Et maintenant, ce pergélisol a complètement disparu. Donc, c'était un pergélisol sporadique, hein, on est dans le sud du Québec, et maintenant, ça a complètement disparu. Et il y a plein de zones où il y avait du pergélisol continu, par exemple, où ça commence à devenir du pergélisol discontinu sur les faces sud des collines, etc. quoi. Et puis après, dans les zones où le pergélisol est continu, ce qu'on voit, c'est que la couche active devient de plus en plus profonde. Avant, il y avait 20 cm, mettons, de couche active. Maintenant, ça passe à 30. quoi. Donc, c'est ça les transformations qu'on voit du pergélisol. Enfin, ça, c'est certaines des transformations qu'on voit du pergélisol. Il y en a bien d'autres.
On a une idée de la vitesse à laquelle il disparaît ?
Bah, il y a des sites de suivi, là. Hein. Certains de mes collègues utilisent le mot monitoring, le mot anglais monitoring. Il y a des sites de suivi, oui, où on suit. Il y a des centaines de sites de pergélisol qui sont instrumentés, où on suit la température du pergélisol. Voilà. Et il y a des zones où on voit effectivement qu'il y a le pergélisol qui a complètement disparu. Alors, le réchauffement du pergélisol, c'est de l'ordre d'une fraction de degré par décennie. Alors après, en surface qui disparaît, combien il y a de kilomètres pareils qui disparaissent par an ? Là, j'ai pas de chiffre en tête, mais c'est sûr qu'il y a des milliers de kilomètres carrés de pergélisol qui disparaissent tous les ans. Ça, c'est sûr, dans la zone marginale du pergélisol. Donc ça va vite, ouais.
Le pergélisol, sa disparition, c'est source d'inquiétude en partie parce qu'il va libérer. Si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui se produit quand le pergélisol disparaît ?
Bon, alors, ce qui se passe, il se passe beaucoup de choses quand le pergélisol disparaît. Ça dépend de comment on se passe. D'abord, d'un point de vue géomorphologique, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines zones du pergélisol où il y a des accumulations de glace. Donc, le pergélisol, ce qu'on appelle pergélisol riche en glace. Et dans ce cas-là, quand le pergélisol dégèle, il y a toute cette glace qui fond. Et donc, ça produit des affaissements de terrain.
Un des signes frappants, en tout cas, que l'on peut voir à œil nu, juste en se baladant dans la toundra, c'est déjà des arbres qui vont se pencher. Ce qu'on appelle un petit peu des forêts ivres, en fait. Ce sont des forêts où on voit beaucoup d'arbres qui sont naturellement penchés d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est dû justement au fait qu'avec la fonte du pergélisol, le sol devient plus instable pour l'arbre. Et puis, sous l'action de son poids, il va avoir tendance à pencher d'un côté ou de l'autre.
Voir des glissements de terrain qui peuvent être spectaculaires. Il y a des cratères en Sibérie, par exemple, où il y a du pergélisol très profond, et où il y a des accumulations de glace qui font plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur. Il y a eu des effondrements sur des épaisseurs qui dépassent 50 mètres. Il y a eu vraiment des cratères qui sont apparus comme ça, qui sont absolument spectaculaires. Bon, ça, c'est en Sibérie, où il y a du pergélisol qui est là, stable depuis des centaines de milliers d'années. Au Canada, le pergélisol, en fait, il est apparu quand la calotte des Laurentides a fondu, donc il y a à peu près 10 000 ans. Donc, il n'y a pas eu le temps d'avoir tant d'accumulation de glace. Donc, il n'y a pas de phénomène aussi spectaculaire qui apparaissent au Canada. Ceci dit, on voit quand même, moi, quand je vais, par exemple, à l'île Bilot, au nord de Baffin, là, dans l'Arctique canadien, je vois quand même des effondrements tous les ans, des effondrements qui ont progressé tous les ans. Bon, ça, c'est au point de vue géomorphologique. Maintenant, au point de vue chimique, ce qui se passe, c'est que quand on a de la végétation... Elle, par exemple, des feuilles d'arbustes là, qui tombent en automne, dans nos pays, le carbone de ces feuilles est recyclé et donc il est renvoyé vers l'atmosphère. Il va servir comme nutriment pour la saison de pousse suivante à partir du printemps, etc. Là-bas, comme c'est gelé, fait froid, le carbone n'est pas recyclé, donc il s'accumule. Donc il y a tous des débris végétaux qui s'accumulent depuis des milliers d'années. Du coup, il y a une quantité de carbone phénomène, une quantité de matière organique qui s'est accumulée depuis des milliers d'années parce que c'est gelé, donc la dégradation bactérienne ne peut pas avoir lieu. Maintenant, si on réchauffe tout ça, les bactéries vont se remettre dans cette matière organique et vont la digérer et vont l'émettre sous forme de CO2 et de méthane. Donc, il y a le danger qui est une grosse libération de gaz à effet de serre, CO2 et méthane, suite au dégel du pergélisol.
On a une idée des proportions auxquelles on peut s'attendre ?
Alors, oui, il y a des tas de modèles, là, il y a des tas de gens qui ont fait des études, et des tas de modèles qui ont tourné là-dessus. Bon, alors il y a des grosses incertitudes, parce que, bon, comme toute prévision, hein, des prévisions, on va faire des prévisions à plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'années. Donc ça, c'est source quand même de pas mal d'incertitudes. Donc en gros, dans le pergélisol, il y a environ 1500 milliards de tonnes de carbone. Ça, c'est à peu près, pour vous fixer une idée, parce que je vous dis 1500 milliards de tonnes, ça ne vous dit rien, quoi. C'est deux fois plus de carbone que ce qu'il y a dans l'atmosphère. Donc si tout le carbone du pergélisol était libéré dans l'atmosphère, on triplerait la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Mauvaise nouvelle. Donc en gros, sur ces 1500 milliards de tonnes de carbone, on estime qu'il y en a environ 300 milliards de tonnes qui pourraient être libérées d'ici à 2100. Ce qui fait quand même une augmentation de CO2 dans l'atmosphère de plus de 100 ppm. Là, on est environ à 400 ppm, donc on rajoute encore 100 ppm. Ça fait 500 ppm, c'est aussi une mauvaise nouvelle. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes. Pourquoi il y a beaucoup d'incertitudes ? Déjà, on ne sait pas quelle va être l'évolution thermique du pergélisol. Si l'air se réchauffe de 1 degré, le pergélisol ne se réchauffe pas forcément de 1 degré. C'est plus complexe que ça, parce qu'il y a d'autres phénomènes. Par exemple, il y a la neige qui empêche le refroidissement en hiver qui pourrait disparaître, etc. Donc, il y a des tas de choses qui pourraient entrer en ligne de compte. Et puis aussi, il y a un effet compensateur qui fait que, avec le réchauffement, on a de la croissance arbustive, le verdissement de l'Arctique. Arctic greening, hein, en anglais. Et donc, on a cette croissance végétale, c'est un puits de carbone. La végétation, pour pousser, prend du carbone dans l'atmosphère. D'accord ? Et donc, ce carbone qui était dans l'atmosphère se retrouve fixé dans le sol, se fixer à la surface sous forme de biomasse ou sous forme de débris végétaux, etc. Et ça, ça pourrait compenser en partie les émissions de carbone du pergélisol. Et pareil, là, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'impact du verdissement de l'Arctique sur le bilan carbone du pergélisol. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas, ça pourrait être non pas 300 mais 200, mais ça pourrait aussi être 500. Quoi. Voilà.
Quand on s'intéresse au pergélisol, il y a quelque chose qui revient très souvent dans ce qu'on s'attend à voir libéré, et vous allez me dire si c'est un fantasme ou pas, on s'attend à le voir libérer potentiellement des choses dangereuses au-delà du dioxyde de carbone, des choses dangereuses pour l'humanité. Je pense notamment à des virus, à l'anthrax, on avait parlé parce qu'il y avait eu un cas en Sibérie il y a quelques années.
Enfin, la troisième raison pour laquelle le permafrost nous concerne tous, ce sont les virus. En 2016, dans le nord de la Sibérie, des centaines de rennes sont morts soudainement. Une vingtaine de personnes sont tombées malades et un petit garçon est décédé. Tous victimes d'une bactérie dangereuse, le bacille du charbon. Ce qui est plutôt étrange puisqu'en Sibérie, la maladie causée par cette bactérie a disparu depuis les années 40. Mais rapidement, on a compris ce qui s'était passé. En fondant, le permafrost a libéré de vieilles carcasses de rennes morts porteurs de la bactérie. Les microbes qui avaient survécu au gel se sont alors dispersés et ont contaminé des animaux et des humains.
Est-ce que c'est un fantasme de s'attendre à voir comme ça et réémerger du sous-sol des maladies, des virus, des choses très néfastes pour l'homme, ou est-ce que c'est une réalité ?
Bon, alors déjà, moi je suis pas microbiologiste, donc là on sort de mon domaine de confort. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, d'accord ? De toute façon, on ne peut pas être expert dans tout. Hein. Donc, effectivement, il y a eu des virus qu'on ne connaissait pas, qui ont été découverts dans le pergélisol. Il y aura peut-être aussi des bactéries dormantes, parce que les bactéries, si on les congèle, elles ne meurent pas toutes. Il y en a certaines qui survivent. Il peut y avoir aussi des tas de micro-organismes dormants qui sont réveillés, des tas de micro-organismes pathogènes. Peut-être, on peut très bien dire qu'il y avait des souches bactériennes qui étaient vivantes chez les mammouths ou chez d'autres organismes disparus, et puis qui ont été, dont une faible concentration a été enfouie dans le pergélisol, et puis qui vont se multiplier. Les virus, hein, des fois, vous avez juste, par exemple, une huître qui est contaminée avec quelques centaines de virus, vous la mangez, au bout de quelques heures, les centaines de virus sont transformés en 1000 milliards de virus, et puis vous avez une gastro, quoi. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, il y a peut-être des virus qui sont indétectables dans le pergélisol, et puis, avec le réchauffement, ils vont être ingérés par je sais pas trop quoi, par un organisme, ils vont se multiplier et puis ils vont devenir un problème de santé. Ça, on peut pas l'exclure. Maintenant, je sais pas vraiment. À mon avis, on nage quand même dans l'incertitude là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est possible. On a vu des exemples. Maintenant, l'ampleur future de ce phénomène, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais encore une fois, je ne suis pas expert, on est incapable aujourd'hui de l'évaluer.
De manière générale, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'incertitudes, comme vous le dites, autour de ce pergélisol et de son devenir. J'ai même lu quelque part qu'on le qualifiait de boîte de Pandore. C'est un peu ça pour vous aussi?
C'est-à-dire que, donc moi, voilà, j'étudie les processus qui interviennent dans l'évolution du pergélisol, ok? Et à chaque fois que je découvre un nouveau processus, c'est un processus qui va rétroagir sur la température ou les stocks de carbone du pergélisol. Donc en fait, les modèles actuels incluent les processus qu'on a mis dedans. Et il y a des tas de processus qui existent, qu'on vient de découvrir, qui ne sont pas encore dans les modèles, ou des processus qu'on n'a pas encore découverts, donc forcément, ils ne sont pas encore dans les modèles. Donc en fait, les modèles qu'on utilise pour prédire l'évolution du pergélisol sont forcément très incomplets. Donc, un modèle incomplet, il va vous donner des prévisions incertaines. Et on est loin d'avoir inclus tous les processus. Bon, de toute façon, on ne les aura jamais inclus tous. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut aller dans l'Arctique pour les observer, pour les détecter, pour les quantifier. Et l'Arctique, ce n'est pas une zone accessible. Il y a beaucoup moins de travaux qui se font dans l'Arctique que, par exemple, sur la forêt tempérée, sur la forêt amazonienne, qui sont beaucoup plus faciles d'accès. C'est-à-dire, l'Arctique, c'est au niveau logistique, c'est compliqué. On ne peut pas forcément y aller facilement dans toutes les saisons, alors qu'il peut se passer des processus intéressants toutes les saisons. Pendant la nuit polaire, c'est extrêmement difficile de mener à bien des études là-bas, etc. Donc, c'est ça qui fait que les études dans l'Arctique étant difficiles et chères, parce que le financement de la recherche est limité, ça fait qu'il y a beaucoup de processus qui n'ont pas été identifiés. Ceux qui ont été identifiés ont été que partiellement ou pas du tout quantifiés. Donc en fait, les modèles qui en découlent sont très simplifiés, très incertains. Donc forcément, il y a des grosses incertitudes.
Comment est-ce qu'on peut, et est-ce qu'on peut déjà, le préserver dans la mesure du possible, ce pergélisol?
Alors, c'est hyper simple. Ça, c'est une réponse facile. Si on veut préserver le pergélisol, il faut arrêter de réchauffer l'atmosphère, faut cesser immédiatement d'émettre du CO2 et du méthane. Voilà, c'est tout. C'est hyper simple. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a pas de... on ne va pas mettre un système de réfrigération, on ne va pas mettre... voilà. Alors, on peut faire des trucs... par exemple, au niveau des structures, si vous avez entendu parler du Alaska Pipeline, l'oléoduc d'Alaska, par exemple, etc., qui passe sur des zones pergélisolées, on ne veut pas que ces zones s'effondrent, parce que sinon, ça va être la catastrophe pour l'oléoduc. Pareil pour l'aéroport d'Iqaluit. Iqaluit, c'est la principale ville inuite dans l'Arctique canadien, qui est à 63 degrés nord. Pour l'aéroport d'Iqaluit qu'on vient de refaire, une partie de la piste de l'aéroport est sur du pergélisol riche en glace. On ne veut pas que cette glace fonde et que donc le dégel du pergélisol s'accompagne d'un affaissement de la piste, etc. Donc là, on peut faire des installations, ce qu'on appelle des thermosiphons. C'est un truc simple, en fait, qui fait que l'été, la chaleur du pergélisol est évacuée, et puis l'hiver, le froid de l'air extérieur rentre dans le pergélisol. Donc ça, c'est un truc de l'ingénierie où on limite le réchauffement du pergélisol. Donc on peut faire ça pour la piste de l'aéroport Iqaluit, pour l'Alaska Pipeline, éventuellement pour des constructions de routes ou de maisons, etc. On ne va pas faire ça sur 18 millions de kilomètres carrés. Ok. Donc en pratique, si on veut arrêter le réchauffement du pergélisol, faut arrêter de réchauffer l'atmosphère. Point barre.
Est-ce qu'on a conscience je parle de nous en termes collectifs, politiques, internationaux, du danger que ça représente ce dégel du pergélisol? Ou est-ce que cette zone, cette spécificité, c'est une des grandes oubliées de cette lutte contre le dérèglement climatique, le réchauffement climatique?
Au niveau politique, non, c'est pas oublié. Je veux dire, il y a même par moment, il y a un gros tapage médiatique qui a été fait sur ce sujet il y a quelques années, etc. au niveau du GIEC, maintenant il y a des chapitres, un chapitre entier sur le pergélisol. Non, ce n'est pas quelque chose qui est oublié. Par contre, c'est un peu le parent pauvre, parce que quand on regarde, bon, il y a un nouveau rapport du GIEC qui vient de sortir, mais dans le rapport précédent, le carbone du pergélisol, ce n'était pas inclus dans les projections climatiques du GIEC. Pourquoi ? Parce que c'est, encore une fois, tout ce qui a trait à l'Arctique, c'est quelque chose qui, en fait, n'a pas beaucoup d'attention chez les scientifiques, chez les politiques, etc. Parce qu'en fait, l'Arctique, qui c'est qui va ? Vous êtes déjà allé dans l'Arctique, vous ? La plupart des gens n'ont jamais été dans l'Arctique. L'Arctique, c'est une entité abstraite. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont eu l'occasion de toucher, de voir, etc. Donc, en fait, la prise de conscience des processus arctiques est très faible. Hein. Donc, même chez les modélisateurs, etc., c'est quelque chose qui a été une priorité très faible. Ils ont préféré, par exemple, se concentrer sur le cycle du carbone en Amazonie, le cycle du carbone dans l'océan, etc., des choses comme ça. Et puis, en oubliant un peu l'Arctique, parce que l'Arctique, on n'y pense pas. Donc, mais ceci dit, bon, au niveau des politiques, au niveau du public et tout ça, il y a quand même eu pas mal de tapage médiatique qui fait que je pense que la plupart des gens sont un peu au courant, quoi.
Autre enjeu à haut risque pour ces zones bousculées très fortement par le dérèglement climatique, les velléités économiques, en Russie notamment, de certains acteurs industriels qui voient dans ces nouveaux espaces en plein dégel de possibles opportunités d'exploitation. Car oui, le réchauffement et la crise du climat, c'est aussi du business, ne l'oublions pas. Merci à Florent Dominé pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.